Les musiciens en leur temps, une émission proposée par Daniel Cabanis.
Nous abordons aujourd'hui la période qui s'étend à peu près de 1650 jusqu'à la Révolution. La tradition du ballet de cour se poursuit sous Louis XIV, qui va l'amener en fait à son plus haut niveau. Excellent danseur, le jeune roi débute pour son premier ballet alors qu'il n'a que 12 ans, dans le ballet de Cassandre. Et il foulera les planches de la scène durant quelques 20 ans. La mise en scène de la monarchie est alors portée à des sommets. On fait appel à la mythologie, au merveilleux. On use d'allégories. Tout cela est combiné dans un somptueux spectacle entièrement dédié à la gloire du roi. C'est le cas notamment du fameux ballet royal de la nuit, dans lequel Louis XIV apparaît en roi soleil. Ce ballet est donné juste après la répression de la Fronde et il possède évidemment une forte résonance politique. Tout contribue à mettre en évidence la gloire du jeune monarque, encore qu'il ne soit pas pour grand-chose dans la répression de la Fronde dont se sont chargés la régente sa mère Anne d'Autriche et le cardinal de Mazarin. Nous écoutons un extrait de cette musique due à Lully. De surcroît, des gravures font largement connaître les performances royales. Sous le règne du roi, la danse commence à se professionnaliser, bien que la création de l'Académie royale de danse en 1661 soit en fin de compte un échec puisqu'elle disparaît dès 1680. Mais son directeur et maître de ballet, Pierre Beauchamp, aura un rôle essentiel dans l'évolution de la technique de danse. Il définit notamment les positions de base. Le ballet gagne également en unité. Un seul poète écrit le livret, et un des principaux auteurs est Isaac de Benzerade. Un seul compositeur écrit la musique, et Lully aura vite le monopole de cette charge en devenant le premier compositeur de la cour. S'il collabore au début avec d'autres compositeurs, par exemple dans la mascarade de la foire Saint-Germain, dont nous écoutons un extrait en 1652. Il s'impose rapidement comme l'unique créateur des ballets de cour. En fait, le genre lui sert de laboratoire pour développer son style, qui est une espèce de synthèse entre le style italien et le style français, qui va s'épanouir notamment grâce à la faveur du roi. Le ballet fera, si l'on peut dire, une percée dans les tragédies lydiques, traits de musique rapide pour le vent et les démons, danse noble et majestueuse, chaconne, sarabande, introduction du menuet. Ainsi par exemple dans le fameux ballet de la raillerie. Thank you. c'est aussi le développement de l'ouverture à la française, avec la recherche d'une instrumentation originale. Mais le ballet de cour va décliner, en fait, à partir de 1670, lorsque le roi renonce à danser et que le public, je dirais presque automatiquement, s'en désintéresse. Le roi était pris par les affaires de l'État et ne considérait plus qu'il avait du temps à passer, à faire en sorte de danser lui-même ou d'animer des spectacles. Donc ça va régresser et on peut dire qu'il n'y aura guère que de la Lande au XVIIIe siècle qui va composer encore de la véritable musique de ballet, ainsi que Rameau qui l'introduit de manière très importante dans ses opéras auxquels il donne un ton musical extrêmement important, mais souligné par la danse. Il a également composé des ballets plus courts qui sont joués en tant que tels, ainsi Pygmalion ou La naissance d'Osiris, dont nous écoutons un extrait. Et il poursuit ainsi la tradition initiée par Lully en intégrant les divertissements dans ses tragédies lyriques, ainsi dans Hippolyte et Aricie ou dans Dardanus. Rousseau lui-même introduit une danse officiellement populaire, mais en fait passablement élaborée dans son Devin du village avec le célèbre « Allons danser sous les ormeaux ». En Angleterre, le XVIe avait vu la naissance du masque sous le règne d'Élisabeth Ier. Il était issu des traditions qui mélangeaient l'intermedio italien et le ballet de cour français. Il n'est dansé que par les membres de la cour, donc pas par des professionnels du ballet, et il a une forte dimension politique. Mais il va s'éclipser à la fin du XVIIe devant l'opéra seria italien. Et bien sûr, Haendel a joué un rôle considérable dans cette mutation. En revanche, en Italie, le ballet trouve sa place dans l'opéra, l'image du ballet dans la tragédie lyrique en France. Au milieu du XVIIIe, le compositeur Gluck souhaite réformer l'opéra pour y apporter plus de naturel et de vraisemblance, et il veut une meilleure intégration du ballet à l'action de l'opéra. Or, dans le même temps, le chorégraphe Jean-Georges Nauvert amorce lui aussi une réforme du ballet. La danse doit pouvoir exprimer par elle seule des émotions ou des actions sans avoir recours au chant ou au récit. C'est la naissance du ballet pantomime ou ballet d'action. Des prémices de cette nouvelle réflexion étaient perceptibles sans doute dès le début du siècle, mais le rôle de Nauvert est absolument essentiel. Il faut qu'il y ait une exposition, un nœud d'action et un dénouement. On abandonne les masques qui souvent cachaient les expressions du visage. Et en termes de costume, on abandonne pour les jeunes danseuses le fameux panier qui était bien encombrant. Et dans ses lettres sur la danse, Nauvart va expliquer à quel point le ballet bien composé est une peinture vivante des passions, des mœurs, des usages, des cérémonies et du costume de tous les peuples de la terre. Et que les danseurs doivent peindre par la vérité de leurs gestes et de leur imitation l'action que le compositeur a pris soin de leur tracer. À travers le ballet pantomime, le ballet devient progressivement une entité autonome, tout en restant intégré à l'opéra. Le premier ballet pantomime autonome à l'opéra de Paris, Jason et Médée, et sur une chorégraphie de Nevers, est donné en 1770. L'absence de paroles, la musique instrumentale se doit dès lors d'avoir un fort pouvoir expressif. Aussi, le compositeur se met-il de plus en plus au service du chorégraphe pour répondre à ses exigences lorsque le chorégraphe ne compose pas lui-même la musique de ses ballets. La musique n'est donc composée souvent qu'une fois le livret terminé. Ainsi disait le chorégraphe, « Mon poème, une fois conçu, j'ai étudié tous les gestes, tous les mouvements et toutes les expressions qui pouvaient rendre les passions et les sentiments que mon sujet faisait entendre. Et ensuite, je commandais la musique. » Thank you.